François Gagnon sera avec nous tout à l'heure en direct du meeting des gouverneurs, lui qui couvre ça là-bas. Chuck Fletcher, nommé DG des Flyers de Philadelphie, je vous le dis au passage, même si ça nous concerne moins ici, vu du marché de Montréal. Accueillons maintenant Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Plusieurs sujets au menu ce soir et tu as choisi de nous parler évidemment de ce qui s'est passé avec Adonis Stevenson samedi, qui demeure dans le coma depuis. T'es pas un adepte, un grand fan des sports de combat, mais évidemment la situation t'interpelle.
Ouais, ben tu sais, j'estime que ça doit relancer un débat sur la boxe, sur les arts martiaux mixtes aussi. Moi, il me semble, Mario, que les avancées de la science aujourd'hui nous font réaliser le danger énorme des commotions cérébrales. Et quand on parle de boxe, quand on parle d'arts martiaux mixtes, évidemment, l'objectif, c'est de frapper à la tête son adversaire. Alors, il y a une certaine époque, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on était moins au courant des dangers que tout ça pouvait amener, des maladies dégénératives du cerveau, vraiment faire en sorte que la qualité de vie des personnes qui avaient subi des traumatismes crâniens soit hypothéquée de façon considérable à mesure que cette personne-là avançait en âge, et même souvent très jeune, comme on l'a vu au cours des dernières années. Mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses. La science a fait des progrès extraordinaire. On sait des choses qu'on ignorait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et je regarde dans d'autres secteurs de la vie, quand on apprend des choses, quand la science nous enseigne des choses, on réagit. Quand on a compris que la cigarette, c'était excessivement dangereux pour les poumons, ben on a commencé à prendre des mesures pour en réduire la consommation. Quand on a compris qu'une alimentation très saine, ça avait un impact direct sur l'espérance de vie, ben on a commencé à s'intéresser à la nutrition beaucoup plus qu'auparavant, puis ça, on a démocratisé l'accès à l'information de dans ce secteur-là. Pense au changement climatique, on ignorait exactement c'était quoi il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, on réagit collectivement face à ça. En tout cas, on amorce une réflexion. Mm-hmm. Et je trouve que les aujourd'hui, pour les coups à la tête, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Puis, tu sais, on dit souvent que au hockey, la Ligue nationale n'a pas d'excuses. Au football, on essaie aussi de faire en sorte de pénaliser les coups, de les décourager les coups à la tête. Et là, quand tu regardes la boxe et les arts martiaux mixtes, ben, tu sais, c'est sûr, là, c'est comme un combat de boxe au hockey. Moi, je l'ai dit, tu sais, à ton micro plusieurs fois, l'objectif dans un combat de boxe au hockey, c'est de frapper la tête de ton adversaire. Si la Ligue nationale était véritablement sérieuse dans son désir de mettre fin aux commotions cérébrales, il arrêterait les combats automatiquement.
Mais quand tu parles de boxe, là, c'est la nature, c'est le sport
en soi.
Et là, on peut réfléchir sur pourquoi il y a une différence entre ce sport-là et toute l'énumération que tu nous as faite. Ça veut dire qu'il faut niveler par le bas. Les boxeurs sont-ils plus vulnérables? Est-ce que leur ambition de se sortir parfois de milieux peut-être pas les plus favorisés. Peut-être que ça peut paraître cliché, mais je pense que c'est pas mal le dénominateur commun de bien des boxeurs. Est-ce que leur ambition les rend plus vulnérables?
Mais est-ce qu'il y aurait moyen de changer des choses? Là, je réfléchis à voix haute, là, par exemple. Mais tu sais, un casque, par exemple, tu sais, pourquoi pas?
Pendant un combat professionnel, même si c'est pas l'entraînement.
Même on vient de les enlever aux Olympiques, là, les casques.
Imagine.
Alors, c'est une très mauvaise idée. Mais tu sais, pourquoi ne pas...
Mais il y en a qui ont réussi à prouver que les chocs pouvaient être pires avec un casque. Ben, écoute, faudrait que j'en sorte l'étude.
C'est tout ça qu'il faudrait voir, évidemment. Il y a des études. La durée des combats aussi, tu sais,
c'était 15 rounds avant.
Ben oui, puis est-ce qu'aujourd'hui, c'est souvent 12 rounds puis 10 rounds, mais est-ce que ça devrait être 6 rounds? Est-ce que ça devrait être 5 rounds? Tu sais, peut-être que des gens vont crier en disant « Ah, mais c'est plus la boxe, c'est plus la même chose. » Mais les sports changent dans tout les secteurs. Les sports s'adaptent aux nouvelles réalités. Alors, on verra bien. Là, je n'ai pas l'impression que tout ça va changer demain matin. Là. C'est certain. Mais je pense que tout ça doit quand même nous interpeller faire réfléchir à l'ensemble de la situation.
Ah oui, ne pas y réfléchir, c'est peut-être un petit peu insensible à ce qui s'est passé. Puis David Whittam également, qui est décédé l'année dernière, même pendant l'année, là, lui qui était dans le coma depuis le printemps 2017. C'est sûr que ça fait réfléchir. D'autres sujets que je vais aborder avec toi, Philippe, absolument. Le dossier Nylander a connu un dénouement en fin de semaine. Oui. Je ne sais pas quelle est ton analyse. Je sens que tu es favorable, en tout cas, tu as une opinion très favorable à la façon dont Nylander a géré son dossier comme joueur.
Oui, parce que, tu sais, c'est souvent les joueurs qui défendent leurs droits, surtout de façon individuelle comme ça. Quand les joueurs défendent leurs droits de manière collective, c'est-à-dire au moment de renégocier la convention de le contrat de travail, la convention collective, souvent, les gens vont parfois diviser. Il y en a qui vont prendre pour les patrons en disant, les joueurs sont déjà super bien payés, de quoi ils se plaignent et tout. On oublie commodément que les patrons, généralement, font pas trop mal non plus avec la business du hockey. Mais quand arrive un joueur qui individuellement décide de se défendre pour ses droits, et qu'est-ce qu'il a fait, Nylander? Il a simplement exercé un droit, c'est-à-dire que son contrat était terminé avec les Maple Leafs de Toronto. Il n'a pas fait la grève. Des fois, t'en as là, il fait la grève. Mais non, il fait pas la grève. Il n'y a pas de contrat. Puis il attend d'avoir un nouveau contrat. Puis il y a une date butoir. Puis la date butoir, celle-là, on le sait, là, c'est pas comme dans la construction des stades de baseball. La date butoir, elle est conventionnée. C'était le 1er décembre à 5 heures. Alors là, tu arrives dans un crunch là, de négociation. Puis finalement, il a réussi à avoir, somme toute, un excellent contrat. Peut-être que les Maple Leafs de Toronto sont contents également comme organisation. En tout cas, c'est ce que dit le directeur général Kyle Dubas. J'imagine que c'est le cas. Mais moi, j'ai aimé de voir ce joueur-là, ce jeune joueur-là, qui a dit « Moi, j'accepte pas ce qu'on m'offre à l'heure actuelle », ce qu'il disait, disons, l'été dernier, puis je vais attendre. Puis il a exercé son droit, puis au bout du compte, il en ressort pas mal gagnant, parce que quand tu regardes les paramètres de ce contrat-là, c'est pas mal intéressant, merci. Alors, je calcule que pour lui, c'est une belle victoire. Puis ça me rappelle un peu, souviens-toi, à l'époque, quand, peu après l'arrivée de Marc Bergevin à la tête du Canadien, là, en 2012-2013, Piquet Subban ne s'était pas rapporté à l'équipe. Il avait raté les premiers matchs de l'équipe cette année-là, en 2013, parce que, souviens-toi, il y avait eu le lockout, là, puis la saison, on n'avait eu que 48 matchs, parce qu'il n'était pas content du contrat. Puis finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente, mais lui aussi avait défendu ses droits. Alors moi, j'aime que les joueurs profitent de ce que la convention collective peut offrir et puis qu'ils le défendent. Et puis dans ce cas-ci, je pense que Nylander sentir très, très bien.
Il y en a qui doivent saliver, là, ceux qui sont à leur contrat d'entrée dans la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'il les oblige à donner 3 années là, pour une modique somme, tout près $1 million. Je pense à Thomas Chabot, là, qui est le meilleur pointeur chez les défenseurs de la Ligue nationale, qui en est seulement sa 2e année dans la Ligue. Il va faire sauter la banque. Et ça va, je ne sais pas si ça va provoquer un nouveau conflit lors de la prochaine négociation collective, mais toute la hiérarchie, toute la structure de la Ligue nationale a évolué. Les gars ne veulent pas attendre à 31 ans. Autrefois, l'autonomie, c'était à 31 ans ou encore à 27 ans depuis un certain temps. Ne veulent plus attendre à ces moments-là pour passer à la banque. Maintenant.
Exactement. Puis c'est plus comme, OK, on va te donner un bon contrat quand tu auras gagné quelques trophées. Non. Ou vraiment que tu auras prouvé que tu es une super vedette dans la Ligue. Puis on va te récompenser après. Mais maintenant, c'est plus ça. Non, c'est, regarde, j'ai déjà prouvé. Ou même les joueurs sont payés sur leur potentiel. Tu sais, Leon Draisaitl qui a touché le gros lot avec les Oilers d'Edmonton. Il va bien, Leon Draisaitl. Mais tu sais, sa feuille de route, quand tu regardes dans son ensemble, il y a encore des choses à prouver. Mais donc, ce que les Oilers d'Edmonton ont acheté dans ce contrat-là, c'est la perspective d'avenir. C'est de dire, il va devenir un super joueur. Un peu comme les Maple Leafs de Toronto viennent de le faire avec Nylander. Alors là, ça va être intéressant de voir comment les équipes vont se positionner avec ça, parce que il y a des joueurs pour qui ça va être assez simple de dire oui, il va continuer d'être bon, puis il va demeurer un champion sans doute jusqu'à 30 ans dans la Ligue nationale. Mais pour certains joueurs, peut-être que le débat va être un petit peu plus houleux, ça va être un petit peu moins clair. Alors comment les organisations vont se positionner par rapport à ces joueurs-là, ça va être très intéressant, mais c'est clair là que le fameux contrat de transition, tu te souviens, à l'époque, on parlait toujours de ça, là, du contrat de transition. Je pense que là, pour les meilleurs joueurs, on en voit de moins en moins. Ils passent du contrat de début dans la Ligue nationale, le fameux 3 ans dont tu parlais, à un gros pactole tout de suite après. Puis c'est les répercussions sur la convention, sur la prochaine négociation, effectivement, ça risque d'être assez intéressant. Puis je pense aussi que si j'étais les joueurs, il y a un autre domaine que je regarderais, c'est, tu sais, quand on dit que tu es joueur autonome avec restriction. Tu sais, il l'était, Nylander, joueur autonome avec restriction des offres. Il n'y en a pas eu, là. Tu sais, c'est ça. C'est que c'est un concept d'autonomie avec restriction qui ne fonctionne pas non plus.
Quelle histoire que celle de Christine Girard, médaillée. En fait, elle passe tout près du podium en 2008 à Pékin. Elle termine 4e. Des années, évidemment, difficiles par la suite, compte tenu qu'en rétrospective, elle sait qu'elle aurait dû avoir une médaille puis rester dans l'ombre à s'entraîner dans un abri presque à tempo, pas chauffé pour s'entraîner. Et là, elle est double médaillée olympique. Une belle cérémonie au Centre national des arts aujourd'hui. Médaillée d'or, entre autres, à Londres en 2012. Elle dit que c'est la victoire du sport propre.
Ouais, ben elle avait obtenu une médaille de bronze à Londres, puis finalement ben les deux qui l'avaient devancée ont été éliminées, donc la voici avec l'or. Je trouve ça encourageant parce que c'est sûr qu'on est tous et avec raison assez cyniques dans la lutte au dopage, hein. Tu sais, c'est l'évidence même, puis avec tout ce qui s'est passé à Sochi en 2014, puis de voir que les sanctions ont pas été énormes non plus. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent l'expliquer, on en a déjà parlé. Moi, je trouve qu'il y a de la réelle politique là-dedans. Il faut s'adapter aux circonstances. C'est plate à dire, mais ça existe. Cela dit, il faut quand même trouver, dans les moments encourageants, matière à se réjouir. Et le devoir est là de voir qu'elle, Christine Girard, se retrouve aujourd'hui avec une médaille d'or, une médaille de bronze. C'est sûr que c'est pas comme si elle avait eu la cérémonie à Londres, puis que la cérémonie, tous les athlètes adorent ça, là, et avec raison. C'est peut-être le plus grand moment de leur vie, certainement de leur carrière sportive. Le drapeau du pays qui monte, qui est hissé au sommet du mât, l'hymne national qui retentit. Ce sont des moments extraordinaires pour un athlète quand tu peux vivre ça aux Jeux olympiques. Elle ne l'a pas vécu, elle l'a vécu d'une façon différente, mais au moins elle l'a vécu. Au moins, à quelque part, justice a été faite. Ça a été long. 2008, c'est pas hier, on s'entend là-dessus, à Pékin. 2012, c'est pas hier non plus. Mais au moins, le dossier a continué d'avancer. Puis pourquoi le dossier a continué d'avancer? C'est qu'aujourd'hui, on procède à des réexamens d'échantillons d'urine jusqu'à 10 ans après les Jeux olympiques. Alors, la technologie était à un certain point en 2008. Elle n'avait pas permis de déceler des tricheries à ce moment-là, mais à la lumière des avancées technologiques en 2012, 13, 14, 15, ben on peut réexaminer des échantillons d'urine. Et là, c'est comme ça que des athlètes sont trouvés coupables bien après le fait. Et pour moi, ça, c'est quand même une avancée intéressante et je pense qu'il faut saluer ça. Bien sûr, on se réjouit pour Christine Girard, ça, c'est bravo, on est tous là, mais quand tu regardes ça dans un plus grand ordre des choses, ce que ça signifie au niveau de la lutte au dopage, c'est une petite victoire. Il n'y en a peut-être pas assez, mais au moins, c'en est une.
Oui, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse de ce dossier-là. Et c'était vraiment émouvant de l'avoir là avec ses enfants qui sont peut-être trop jeunes. Je ne sais pas s'ils vont s'en souvenir plus tard, mais c'était un beau moment pour elle. Merci beaucoup, Philippe. C'est tout le temps qu'on a ce soir. Et d'ailleurs, je souligne que Christine Girard est notre invitée tout à l'heure dans la dernière demi-heure de l'émission. Je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, à bientôt, mon cher.
Salut, Mario.
Bye-bye. Et dans un instant, nous revenons avec nul autre que François Gagnon au meeting des gouverneurs.